6h sur le 88.8, l'hebdo de la grenouille sera résolument science en fait ce samedi matin. De la grotte Cosquer à la mémoire transalpine, en passant par les conférences du jour, nous sommes en direct du village de la science. Salut Damien et Nelly avec vous jusqu'à midi. La science en fête, l'opération est nationale. Partout en France, les chercheurs vont à la rencontre des citoyens, comme ici, au village de la science, installé au Conseil Général, c'est à Saint-Just. Le métro vous y dépose, alors n'hésitez pas. Le thème de cette cinquième édition est la mémoire, celle de la nature, des machines, mais aussi de l'homme et des sociétés, avec stands, démonstrations et conférences.
A priori, la science, c'est un domaine un peu austère, un peu rébarbatif. L'esprit de cette manifestation, c'est justement de la rendre attrayante, intelligible et voire ludique. Ainsi, toute une partie des stands est regroupée sous la bannière « La science en s'amusant ». On peut y tester des produits chimiques, expérimenter le son virtuel ou même manipuler des produits radioactifs. Exemple vivant recueilli hier sur le stand Chimie Amusante que n'aurait pas renié un Gaston Lagaffe, avec toutefois moins de risques que dans la BD puisque ce sont des étudiants chimistes qui s'occupent de nous.
Quand tu mets un petit peu d'huile et un petit peu d'eau ensemble, tu vois, ça se mélange pas. Donc là, on peut préparer en fait et démontrer qu'on peut faire des mélanges beaucoup plus complexes. Aussi, il y a quatre phases, une phase solide, une première phase liquide, une deuxième et une troisième. Et après, il suffit de mettre différents colorants dedans pour les faire apparaître.
C'est tous les mêmes.
C'est tous les mêmes liquides que j'ai colorés de différentes façons, de façon à ce que ça soit plus visible. C'est notre expérience, ça vous intéresse. Qui veut secouer la bouteille ?
Attends, faut faire le bruit aussi.
Voilà. Qu'est-ce que vous observez ?
Ça devient violet.
En fait, quand on dissout l'oxygène contenu dans la partie gazeuse, le liquide se colore et quand l'oxygène retourne dans la phase gazeuse, ça se décolore. Simplement, et c'est réutilisable une bonne cinquantaine de fois avant que les produits ne marchent plus.
La science en s'amusant, un reportage enregistré hier avec des collégiens de Marseille.
La grenouille est en direct du village de la science. La découverte de la grotte Cosquer par un monsieur du même nom il y a quelques années du côté de Cassis a grandement apporté à la compréhension de la mémoire de l'homme, des sociétés mais aussi de notre région. La grotte Cosquer se visite ici au village de la science virtuellement, mais c'est au doc de la Joliette que Guillaume a rencontré le professeur Courtin.
Monsieur Courtin, bonjour. Vous êtes préhistorien et un des experts qui travaille actuellement sur la grotte Cosquer. J'aimerais que vous présentiez et puis que vous me disiez un petit peu quel type de travail vous effectuez ici.
Je suis préhistorien, en effet, directeur de recherche au CNRS, ancien directeur des recherches archéologiques sous-marines et des antiquités préhistoriques de Provence et étant plongeur. Depuis ma jeunesse, c'est moi qu'on est venu chercher, malgré mes cheveux blancs, ou mon absence de cheveux, pour diriger les travaux en plongée dans la grotte Cosquer. Pour l'instant, nous avons fait deux campagnes principales dans la grotte, une en 92, une en 94. Et l'exposition qui a rouvert ses portes tient compte de ces deux campagnes et présente le bilan qui n'est pas définitif, hein, puisque les travaux sont loin d'être achevés dans cette grotte. Et continueront. Cosquer a eu la curiosité et le courage d'explorer cette grotte tout seul et en plusieurs étapes. En solo, il a fait cette exploration et en quelques années, il n'y allait pas tous les jours, il est arrivé au bout de quelques années au fond de la galerie noyée et il a découvert la grande salle. Et c'est qu'en 91 qu'il a remarqué dans sa torche de plongée des peintures sur les parois de la grotte et qui ont attiré son attention et qui l'ont amené à déclarer sa découverte.
Et pour vous, chercheurs, quel est le caractère exceptionnel de ces découvertes ?
Alors le caractère exceptionnel, bien entendu, c'est pour le grand public, c'est la situation sous-marine de cette grotte. Hein. C'est la seule grotte ornée au monde qui s'ouvre sous la mer. Ça le restera probablement longtemps. Il y a peu de chances d'en découvrir une autre, bien que ce ne soit pas exclu. Mais pour le monde scientifique, ce qui fait son importance... C'est sa situation en Provence, dans le sud-est, où, je répète, on connaissait des traces de l'homme préhistorique, des chasseurs de l'époque de Cro-Magnon, dans de très nombreuses grottes terrestres, mais on n'avait jamais trouvé de témoignages artistiques. Et pour la première fois, on en trouve sous la mer et à Marseille. Et puis, il y a aussi un autre point très important, c'est que les périodes représentées dans cette grotte 27 000 ans pour les mains et en gros 20 000 ans pour les animaux peints et gravés, sont deux périodes mal connues de l'art préhistorique. L'art préhistorique est surtout connu pour la période de Lascaux, c'est-à-dire vers 13 000, 15 000 à peu près, où on possède beaucoup de grottes en France et en Espagne pour cette période-là. Pour les périodes antérieures, on connaît beaucoup moins de choses, donc c'est très important d'avoir des nouveaux éléments, de nouveaux jalons pour ces périodes très reculées.
Et comment vous expliquez la qualité de conservation de ces peintures ?
La qualité de conservation, elle tient au fait que la grotte est un milieu clos, hein, elle a été scellée par la mer. Quand les glaciers ont fondu à la fin de la dernière période glaciaire, il y a en gros 10 000 ans, et que la mer est remontée, là, vous savez que la mer était à jusqu'à 120 mètres plus bas que le niveau actuel, c'est-à-dire qu'on allait à pied, à Planier, à l'île Rioux, il y avait un immense plateau, une immense plaine littorale, là où maintenant on plonge, ou on pêche, ou on chalute. Et quand les glaciers ont fondu, quand le climat s'est réchauffé, la mer est remontée jusqu'au zéro actuel, et elle a noyé la moitié à peu près de cette grotte, ce qui fait qu'elle l'a absolument scellée, il n'y a plus eu d'échange avec l'extérieur, ce qui explique la conservation des peintures et des gravures. Par contre, ce qu'on peut déplorer, c'est que dans les parties noyées, bien entendu, la salinité de la Méditerranée a rongé la roche et a détruit les peintures et les gravures qui devaient se trouver dans les parties qui maintenant sont sous l'eau. On n'a plus qu'une partie de cette grotte. Cette période-là, il y a 20-25 000 ans, on est au plus fort de la dernière période glaciaire. On imagine que la Provence, d'après les témoignages d'animaux et de flore découverts, on imagine la Provence avec un climat comme celui de la Norvège actuelle. La Méditerranée avait à peu près 5 degrés de moyenne, hein, ce qui explique la présence des phoques et des pingouins. Et une énorme quantité d'eau étant retenue par d'énormes calottes glaciaires qui recouvraient la mer du Nord, qui alors était à sec, les îles britanniques, la Hollande, enfin la plupart des pays nordiques, le niveau des mers et des océans avait baissé considérablement. Et il faut imaginer aussi en Provence, à cette époque-là, des vents violents, un mistral glacé permanent qui soufflait dans la vallée du Rhône et dans la vallée de la Durance, qui a laissé des dépôts de l'Eus tout au long de la Durance, dans la région d'Aix. Et ce massif des Calanques, qui constituait une barrière contre les vents du Nord, était un milieu privilégié, avec un ensoleillement, un écran tout à fait propice aux installations de l'homme, avec de très nombreuses grottes au pied des rochers, des grandes grottes qui pouvaient servir d'abri contre les vents du Nord qui rendaient la vallée du Rhône à peu près inhabitable, ou tout au moins pas très agréable à habiter.
Là, on rentre dans la grotte.
Ce passage étroit matérialise, vous voyez, de façon imagée, l'entrée dans la grotte elle-même.
La reconstitution s'est faite comment ?
Ça, c'est pour donner un peu l'impression au public qui rentre dans une grotte, et à partir de là, on va vraiment voir les peintures et les gravures de la grotte Kosca.
Est-ce que il y avait une grande partie du lieu sur lequel on pouvait voir des peintures, ou est-ce que c'était assez dilué ?
Mais il y a au moins la moitié, sinon les deux tiers de la grotte qui sont submergés. Et on a exploré au moins en partie ces salles sous-marines. Nous sommes persuadés qu'à l'origine, il y avait autant de peintures et de gravures dans les parties noyées qu'il y en a dans les parties qui sont restées hors d'eau. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, dans les parties noyées, la mer a tout effacé. Donc on n'a plus que, disons, la moitié ou peut-être le tiers de l'ensemble qui était beaucoup plus considérable. C'est déjà un ensemble considérable puisqu'on a plus de 150 animaux peints ou gravés, 55 mains négatives, des quantités de traits, plus de 50 signes. C'est un ensemble très important, mais qui devait être au moins le double à l'origine. Alors la phase la plus ancienne, celle qui a été datée de 27 000 ans, c'est celle des mains négatives, de ces mains négatives qui n'existent que dans la partie droite de la grotte, qui semble jalonner un cheminement qui conduit au puits noyé, au puits terminal, qui à l'époque n'était pas noyé, bien entendu, était un gouffre profond de 24 mètres dans lequel on a plongé, mais qui à l'époque était très dangereux, puisque les gens arrivaient au bord de ce gouffre à pic, avec leurs torches, ils ne pouvaient pas en voir le fond, et ça les a certainement très impressionnés, parce que c'est au bord de ce puits qu'ils ont laissé le maximum d'empreintes de mains négatives. Il n'y a aucune autre empreinte de mains négatives dans la partie gauche et centrale de la grotte, elles sont toutes à droite.
Est-ce qu'on sait quelque chose sur la volonté qu'avaient ces hommes-là de laisser des empreintes ?
Vous savez, des empreintes de mains, il y en a un peu partout dans la préhistoire mondiale, aussi bien en Australie qu'en Amérique du Sud, qu'au Sahara, à diverses époques. En France et en Espagne, elles appartiennent toutes à une phase ancienne de l'art préhistorique. Mais appliquer sa main sur les parois d'une grotte, sur un lieu, ça peut avoir plusieurs significations. La plus commune, c'est une prise de possession des lieux, c'est-à-dire ceci c'est notre grotte, nous sommes passés par là, c'est de laisser sa marque, la marque la plus directe qui est celle de la main, dans un lieu dont on veut s'approprier la magie ou la puissance ou autre. Alors ce qu'on a remarqué tout de suite sur ses mains, c'est qu'elles présentaient des doigts incomplets, des doigts raccourcis. Alors le fait existe que dans les Pyrénées et en Espagne, on connaît depuis le début du siècle, des grottes qui ont donné des mains comme ça aux doigts raccourcis. Il y a eu beaucoup d'hypothèses. Il y a eu l'hypothèse de mutilation volontaire. On a imaginé des rites sanglants, que les préhistoriques se coupaient des phalanges pour prouver leur courage, pour obéir à des rites, parce que ça existait chez certaines tribus indiennes d'Amérique du Nord et chez les Papous de Nouvelle-Guinée. Et puis on a pensé que ça pouvait être des mutilations involontaires, c'est-à-dire dues au froid, puisque ces gens vivaient dans un climat glaciaire, ils auraient pu perdre la phalange à la suite de gelures graves, ou de maladies circulatoires. Mais il y a un fait qui gênait dans ces explications, c'est que le pouce, c'est très souvent l'index, aussi bien qu'Oscar qu'ailleurs, est toujours intact. Alors maintenant, on pense plutôt qu'il s'agit de doigts repliés, et non pas de doigts amputés ou détruits par la maladie, et qu'il s'agit d'un langage, un peu comme celui des sourds-muets, un langage de muet, un langage silencieux, qui existe, ou qui existait il n'y a pas très longtemps, chez des populations de chasseurs en Australie, chez les aborigènes d'Australie, et chez les tribus de Bushmen du désert du Kalahari en Afrique du Sud. C'était un langage utilisé à la chasse par les hommes pour approcher, pour correspondre en silence quand on approchait un gros gibier. Et il s'agit probablement de la même chose maintenant. Bien entendu, il ne faut pas imaginer un jour découvrir la pierre de Rosette qui permettra de déchiffrer le message laissé par les préhistoriques dans la grotte Cosquer.
Là, on arrive vers les gravures d'animaux. Alors, elles sont quand même de bonne qualité.
Oui, il y a un bon graphisme. C'était des gens qui avaient un sens de l'observation très poussé, qui vivaient en contact permanent avec les animaux. Les animaux, ils les voyaient tous les jours, ils les chassaient pour se nourrir, pour utiliser leur peau pour fabriquer des vêtements, leurs os pour fabriquer des outils. Ils connaissaient parfaitement et les attitudes, et les mœurs, et les ruses de tous les animaux qui les environnaient. Là, on a, outre les photographiques, les agrandissements photographiques, on a présenté quelques relevés graphiques des dernières découvertes. Ça, ce sont parmi les dernières découvertes, on a découvert plus de 50 lors de la dernière campagne en 1994. Vous voyez que ce sont essentiellement des chevaux. Le cheval est l'animal le plus représenté. Ça ne veut pas dire que c'était l'animal le plus chassé. Mais dans presque toutes les grottes tournées, c'est le cheval qui est le plus représenté. Ensuite, il y a le bison, ensuite le bouquetin, et les cerfs viennent loin derrière. Et chaque fois, une carte montre la position de ces gravures ou de ces peintures dans la grotte pour que le visiteur puisse s'y référer. Vous voyez aussi que sur beaucoup d'animaux figurent des symboles en forme de flèches ou en forme de projectiles qui symbolisent des javelots ou des sagets visant à peut-être à tuer l'animal symboliquement sur sa représentation. Et ça, c'est un des signes appelés à avoir le plus de célébrité dans la grotte Cosquer, c'est un phallus humain. Le graffiti d'un phallus humain qu'on pourrait comparer à des graffitis actuels qu'on peut voir dans plusieurs de nos quartiers sur des murs couverts de tags. J'ai vu exactement le même à la Plaine, dans une rue de la Plaine, réalisé à la peinture, à la bombe à peinture. C'est assez amusant. Ce qui est remarquable, c'est que les symboles sexuels sont très rares dans l'art préhistorique. Il n'y a jamais de scène d'accouplement sur les animaux, par exemple. Il y a des symboles, des triangles, des symboles de sexuels féminins, quelquefois représentés. Les symboles masculins sont beaucoup plus rares. Il y en a très, très peu. Celui de la grotte Cosquer est très réaliste.
Là, on a un dessin de bison. Et est-ce qu'il est fait au charbon, celui-là aussi ?
Tous ces dessins sont faits au charbon, ce qui a permis de les dater. Il est à peu près grandeur nature. C'est la plus grande figuration de la grotte. Il mesure 1,20 m du museau au bout de la queue. Et c'est aussi la seule. Vous avez vu que les animaux sont assez bien dessinés au point de vue proportion, mais ils ont des attitudes figées, raides. Ils n'ont pas du tout de mouvement. Là, par contre, on a un bison qui est en mouvement, qui fouette la queue, là, qui se prépare à charger, ou qui est en colère, qui va se mettre à courir. Et un détail très intéressant et original, c'est que l'animal est dessiné de profil, et la tête est vue de trois quarts face. Et on voit les deux yeux et les deux cornes. Mmh. Ce qui n'est pas du tout dans la norme des canons de l'art préhistorique connu jusqu'à maintenant. Mmh. Il y en a un aussi dans la grotte Chauvet, d'ailleurs, un bison qui tourne à la tête, là, qui est vu de, c'est un, une des premières tentatives de perspective, de rentrement dans la perspective.
On va peut-être passer aux peintures de pingouins, parce que c'est quand même l'animal le plus insolite qu'on a retrouvé dans la grotte.
Les pingouins sont, les oiseaux en général d'ailleurs, sont rarement représentés dans l'art quaternaire. Il y a quelques échassiers par-ci par-là, il y a quelques chouettes. Dans la grotte Chauvet, il y a un hibou, un grand duc. Mais les oiseaux sont rarement représentés. Et là, les pingouins de la grotte Cosquer sont vraiment représentés pour la première fois. Le pingouin est représenté pour la première fois sur les parois d'une grotte. Alors sur ce plafond, il y a trois volatiles dodus avec des petites pattes courtes. Et vous voyez que les pattes ont été dessinées, les pattes des oiseaux ont été dessinées sur les mêmes conventions que les pattes des quadrupèdes, en pointe, en béquille, avec des ailes en forme d'aileron court et un croupion dodu. Alors il y a deux pingouins, ces pingouins mesurent 30 cm de long à peu près, 27 exactement, et deux oiseaux se font face, et un troisième en bas qui est très abîmé, très incomplet, parce que la roche s'est délitée au cours des temps. Alors un spécialiste italien des pingouins nous a dit que c'était deux mâles qui se battaient pour la femelle et que par conséquent cette scène avait été dessinée au printemps puisque c'est la saison des amours des pingouins qui se situe au printemps, ce qui n'est pas impossible. En tout cas, c'est un témoignage de plus sur les variations climatiques très importantes des pingouins et des phoques qui indiquent une Méditerranée froide qu'on connaît par ailleurs par des coquillages de mer froide qui sont dragués, des coquillages fossiles qui sont dragués dans les fonds de 100 mètres par les biologistes, qui indiquent que l'eau de la Méditerranée était très froide à cette époque.
La grenouille est toujours en direct du village de la science. On est donc allé baguenauder hier parmi les stands et je me suis bien évidemment arrêtée au cerveau enchanteur. On y présente l'histoire de la découverte du fonctionnement du cerveau et des structures impliquées dans la mémoire. Une des charmantes responsables du stand nous parle entre autres de nos rêves.
Alors c'est un stand qui a été organisé par le CNRS et l'INSERM. Il s'intitule « Le cerveau enchanteur ». Et le but de ce stand est d'essayer de faire comprendre au public comment fonctionne le cerveau. Alors pour cela, il y a différents thèmes. Soit le thème du sommeil et du rêve, le thème de la maladie d'Alzheimer, le thème du stress et le thème de la mémoire. Tous ces thèmes sont effectivement, je dirais, tous les gens qui viennent nous voir sont confrontés à ces thèmes-là dans leur vie quotidienne.
C'est pour ça que vous les avez choisis, parce que je présume qu'il y en a de nombreux autres.
Mais... Oh là là, oui, bien sûr. Hein, on ne va pas vous donner des thèmes très génétiques ou des thèmes beaucoup plus pointus sur les canaux ioniques ou des choses comme ça.
Certes.
Voilà, donc c'est pour ça. Et puis nous sommes ici donc, pour répondre en tant que chercheurs, pour répondre aux questions que le public souhaiterait avoir.
Alors quelles sont les questions qui, justement, vous sont posées le plus souvent?
Eh bien là, récemment, on m'a posé pas mal de questions sur la maladie d'Alzheimer. Ouais. Bon, je ne suis pas vraiment une grande spécialiste, mais enfin, j'ai essayé de répondre. Et puis des questions sur la mémoire, comment conserver sa mémoire, ça c'est un vaste sujet.
Ouais.
Et puis également aussi sur le sommeil, sur le rêve. Voilà exactement les questions en général sur lesquelles on nous pose. Hein.
Alors là vous avez justement un panneau sur le sommeil et le rêve qui explique un petit peu comment ça fonctionne tout ça.
Oui voilà. Donc vous avez ici, comme vous pouvez remarquer, différents stades de sommeil où on voit en fonction des couleurs l'individu s'endormir petit à petit de façon de beaucoup plus en plus profonde. Et contrairement à ce que les gens pensent, vous voyez que sur le sommeil paradoxal, là où les gens rêvent...
Alors on va peut-être citer les trois étapes.
Donc vous avez le sommeil léger, c'est tout au début de l'endormissement, à peu près entre 10 à 20 minutes après que vous ayez envie de dormir. Ensuite vous avez le sommeil lent profond, ça vous êtes déjà endormi complètement. Vous en avez dans ce sommeil lent profond trois phases. Et c'est la troisième phase qui est la plus efficace pour l'organisme. C'est là où vous dormez le mieux. Et puis, vous avez le sommeil paradoxal, qui est le sommeil du rêve, je dirais.
Oui.
Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, au sommeil paradoxal, comme vous pouvez le remarquer, c'est là où on dort le plus. Alors, on appelle le sommeil paradoxal parce que vous dormez très, très profondément, mais vous bougez, vous avez vos orbites oculaires qui sont en mouvement. vous bougez de partout, vous avez des tremblements et vous êtes en sueur. Mais vous dormez profondément.
Alors sur le panneau, on peut lire que l'homme sait qu'il rêve depuis l'aube de l'humanité, mais ce n'est que depuis 1957 que l'on a pu identifier les périodes de sommeil paradoxal comme corrélat neurophysiologique du rêve. Voilà. Alors, c'est donc en fait relativement récent. Ah,
tout à fait, parce que c'est lié aux techniques d'électrophysiologie qui ont été faites sur les rats, qui ont été faites bien évidemment sur les humains. Et donc on s'est rendu compte que le rêve, essentiellement chez l'homme du reste, puisque le rat ne va pas nous raconter ses rêves, mais chez l'homme, au moment, il y a un tracé électrophysiologique extrêmement caractéristique, et quand on réveille ces sujets, en plein milieu du rêve, ils sont capables de vous dire ce qu'ils ont rêvé ou ce qu'ils étaient en train de rêver. Par contre, si on fait la même chose pendant le sommeil lent, profond, ils disent « mais moi je ne rêvais rien du tout », effectivement ils ne rêvaient rien du tout, parce que ce n'était pas la phase du rêve.
Ce voilà. qui explique donc si on se souvient ou si on ne se souvient pas.
Voilà. Si on se réveille pendant le sommeil paradoxal, on va se souvenir de son rêve. Si on se réveille pendant la phase du sommeil lent, eh bien on se souvient de rien parce qu'on ne rêvait pas.
Donc les gens en fait, qui croient avoir des problèmes parce qu'ils ne se souviennent pas de leur rêve n'en ont pas obligatoirement.
Exactement.
Merci pour cette révélation.
Au village de la science, il n'y a pas que les stands et les démonstrations. Une série de conférences, débats et films nous est également proposée. Cet après-midi, les sciences humaines sont à l'honneur. À 15h30, le professeur d'histoire, Philippe Joutard, se penchera sur la mémoire des sociétés. En France, depuis 20 ans, la mémoire est devenue un objet d'étude privilégié. Alors est-ce un phénomène de mode ou un mouvement plus profond? Est-ce que cette tendance dépasse nos frontières hexagonales? Le conférencier tentera de répondre à ces vastes questions. À 17h, cinéma. L'Institut National de l'Audiovisuel et France 3 nous ont concocté un film sur l'histoire de Marseille. Et dès 14h, objet de mémoire, mémoire d'objet. C'est l'anthropologue Jean-Pierre Jordan qui présente cette conférence. Il nous parlera du rôle des objets de culte de l'île Malakula en Mélanésie. Et on pourra voir également un document audiovisuel exceptionnel, Mansip, la voix des ancêtres, tourné à Malakula justement lors d'une cérémonie d'initiation et d'un rituel funéraire. Jean-Pierre Jordan est également directeur du Centre européen de recherche et de développement multimédia. Il a réalisé une première mondiale, le CD-ROM sur Armand, collectionneur d'art africain. On écoute Jean-Pierre Jordan.
Le CD-ROM que nous avons consacré à Armand et l'art africain, c'est-à-dire qui est intitulé en fait Armand, collectionneur d'art africain, consiste à montrer, pour la première fois bien entendu, l'intégralité de la collection du plasticien Armand, qui vit aux États-Unis depuis une quarantaine d'années, qui est très connu et qui a accumulé comme ça, au cours de ces décennies, la plus grande collection privée au monde concernant l'art africain. Alors l'intérêt de ce CD-ROM, c'est qu'il montre l'intégralité d'une collection, soit 300 pièces, que les 300 pièces sont manipulables virtuellement, hein, donc c'est la première fois au monde, CD-ROM offre cette possibilité. Chaque pièce peut être manipulée, c'est-à-dire on peut s'approcher avec une petite main et se saisir de la pièce et la manipuler sous tous les angles. Hein, donc sur 360 degrés, sur l'axe vertical, donc on peut faire le tour de la pièce. Chaque pièce est également commentée par Armand, qui nous avait la très grande gentillesse de se prêter au jeu, hein, qui est un jeu très difficile. Et il se trouve qu'Armand est un des meilleurs connaisseurs de l'art africain actuel, hein, puisque Princeton University Press lui a proposé d'écrire l'encyclopédie de l'art africain, ce qu'il a refusé pour se consacrer à son œuvre de plasticien. Hein. Mais c'est un formidable connaisseur, et ce fut pour nous un énorme plaisir de travailler avec Armand, qui est un homme tout à fait charmant et vraiment très grand intellectuel et l'artiste immense que tout le monde connaît. Donc, pour revenir au CD-ROM, ce discours d'Armand, les commentaires d'Armand sont également croisés, et ça me paraît important, notamment dans le cadre de celui qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la science en fait, c'est d'associer aux commentaires de l'artiste esthète, collectionneur, celui d'un anthropologue ou historien d'art, spécialiste de l'ethnie ou du groupe ou des objets montrés à voir dans ce CD-ROM. Donc on peut voir chaque pièce et cliquer pour le savoir, effectivement, pour avoir des connaissances sur cette pièce-là, soit par le biais des commentaires d'Armand, soit par le biais d'un discours d'un spécialiste de l'art africain, encore une fois, soit anthropologue, soit historien d'art. Et ce métissage des discours sur un même objet me paraît tout à fait intéressant, et c'est également la première fois que ce type de métissage a lieu. Alors, ce qui est très important sur ces CD-ROM, c'est qu'effectivement, contrairement à nos habitudes, où on oppose toujours esthétique et connaissance, eh bien là, on réunit enfin l'esthétique et la connaissance. L'esthétique parce que la manipulation virtuelle des objets même autorise de l'émotion esthétique, on ressent de l'émotion esthétique, le plus grand, finalement, compliment qu'on ait pu me faire sur ce travail que j'ai pu réaliser donc avec Bo Valsted, qui est le co-auteur de CD-ROM, et l'équipe d'Hypervision et du CRLM à Marseille, puisque ce travail était entièrement réalisé à la Bécharité. Donc le plus grand compliment qu'on ait pu nous faire, eh bien, ce fut en fait prononcé par Armand lui-même, qui a reconnu et publiquement déclaré qu'il éprouvait, lui, en tant qu'artiste et plasticien, une très grande émotion esthétique lors de la manipulation virtuelle de ces objets, et pourtant Dieu sait que ces objets, il les connaît bien. Donc là, ça finalement confirme un peu l'intérêt de ce métissage, encore une fois, novateur, qui permet d'associer l'esthétique et la connaissance.
Alors ici, donc, le thème retenu, c'est la mémoire. C'est des roms comme ça, donc c'est une première. Ça va sans doute essaimer. Est-ce que ça ne va pas modifier un petit peu la relation qu'on a par rapport au musée, par rapport à la mémoire?
J'espère personnellement que ça va radicalement bouleverser la relation que la société civile ou les citoyens que nous sommes tous entretiennent avec les musées. Les musées sont souvent perçus, parfois à raison, comme des endroits un peu poussiéreux où les objets dorment et où, dans le meilleur des cas, on donne à voir de beaux objets pour les qualités esthétiques intrinsèques de ces objets. Or, je pense que maintenant, on va pouvoir, grâce au support électronique, on va pouvoir accéder à cette mémoire qui va nous permettre de contextualiser ces objets et de les rendre vivants, non seulement par la manipulation virtuelle autorisée par ces supports et les techniques que nous avons mises au point, mais également parce que, encore une fois, on pourra s'approcher d'un objet, éprouver toute l'émotion produite par la beauté de ces objets-là, mais on ne s'arrêtera pas là, on aura également accès à la connaissance et au pourquoi ces objets existent, quelle est la fonction et leur rôle dans les sociétés qui les produisent, pourquoi des hommes et des femmes dans les sociétés autres que la nôtre produisent ces objets qui sont aussi des objets d'art, bien qu'ils aient aussi d'autres fonctions, mais qui sont indéniablement produits par de grands artistes dans des sociétés autres que la nôtre.
Et donc pour réaliser ce CD-ROM, apparemment vous y êtes pris pratiquement tout seul, il n'y a pas eu de soutien particulier des...
Alors vous savez, nous y sommes habitués à ces absences de soutien, tout simplement puisque c'est notre troisième CD-ROM. Nous avons réalisé un premier CD-ROM sur 100 ans de cinéma ethnographique, le Multimilanthrope, qui a reçu le prix international du meilleur multimédia patrimonial, donc patrimoine et culture, en 1994. Moi, j'aurais pensé que les institutions allaient un tout petit peu se dégeler, puisqu'elles étaient prudentes, et je comprenais cette prudence, parce que quand on est dans des champs innovants comme ça, je pense que les institutions doivent être prudentes. Donc on a persisté et signé un deuxième CD-ROM sur le musée en poche, qui sera également présenté demain. Nous avons à nouveau obtenu un prix international Moebius du meilleur multimédia scientifique, cette fois-ci, devant les grandes firmes internationales, notamment celle de Seattle, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas faire de publicité. On n'a pas reçu l'aide qu'on aurait pu attendre des institutions de tutelle qui sont les nôtres. Alors j'espère que maintenant, avec ce troisième CD-ROM, que nous avons pu réaliser avec une aide déterminante, modeste mais déterminante, de l'Office régional de la culture, Provence-Alpes-Côte d'Azur, que je tiens ici à vivement remercier parce que cette aide a été déterminante. Nous avons également reçu le soutien du ministère de la Coopération in extremis, qui a permis le bouclage financier de cette opération. Et nous avons pu en fait réaliser cette opération véritablement, l'initier surtout grâce au soutien d'une fondation nord-américaine qui est The Traditional Art Foundation de New York, grâce au soutien d'Armand, lui-même, qui s'est beaucoup investi auprès de cette fondation pour la persuader de l'intérêt de cette thématique-là. Donc je dirais volontiers, à l'heure actuelle, que tout ça corrobore que nul n'est prophète en son pays, mais je ne désespère pas d'attirer les instances de tutelle, les institutions régionales, de la recherche, du monde du ministère de la Culture, du ministère de la Recherche, pour les nommer directement, et de la ville de Marseille, pour des projets ambitieux que nous sommes, dont nous sommes porteurs, toujours sur le stand de la vie des charités, toujours en collaboration avec le musée d'art africain océanien et amérindien, avec lequel nous avons donc depuis maintenant plusieurs années tissé une collaboration qui, à nos yeux, aux yeux d'Alain Nicolas, le directeur de ce musée, et au mien, qui dirige le Centre européen de recherche et développement multimédia, bien cette collaboration est efficace et mérite d'être continuée.
C'était Jean-Pierre Jordan que vous pourrez retrouver en conférence cet après-midi à 14h. Il présentera des extraits de son CD-ROM ici au Village de la Science à l'hôtel du département, métro Saint-Just. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer ou que vous n'avez pas d'ordinateur pour lire ce CD-ROM, rendez-vous au musée de la Vieille Charité pour apprécier en direct live l'exposition « Armand et l'art africain ».
Tout de suite, direction le cerveau, au micro de Marc, le responsable de l'expo, et Guy Ciampini.
Et enfin, on arrive donc au cerveau humain. Le voilà, c'est tout ce qu'on a tous, évidemment, sous la boîte crânienne. Et qu'a fait ce cerveau humain ? Il s'est replié par manque de place. Ça, c'est clair. On avait vu chez les espèces inférieures que le cerveau, la partie télencéphalique, donc le cortex, s'était développé au fil de l'évolution. Mais n'ayant plus de place, la place n'étant pas extensible à l'infini sous la boîte crânienne, le seul moyen qu'il ait trouvé pour continuer à se développer malgré l'absence de place, c'est le repliement sur soi. Si vous prenez une feuille de papier et que vous la plissez, vous arrivez à un petit cube là, qui fait 1 cm sur 1. Si vous dépliez, pourtant, ça peut faire 20 cm sur 10, hein, selon que vous pliez bien le papier. Ça, c'est très net. Bon. Le cerveau, si on dépliait l'écorce corticale, on atteindrait comme ça 140 mètres carrés, soit l'équivalent en surface d'un court de tennis.
Je m'appelle Guy Ciampini, je suis directeur adjoint du CCSTI Provence Méditerranée. Le CCSTI est un lieu où l'on parle de science, c'est-à-dire une sorte de centre culturel qui ne parle que de science. Et comment parle-t-il de science ? Bien, au travers de différents types d'activités qui peuvent être des expositions, des conférences, des rencontres, des fêtes, des animations, enfin tout un tas de possibilités.
On a essayé de faire quelque chose de manière à ce que vous puissiez écouter l'activité d'un neurone pendant la respiration, par exemple, puis pendant la déglutition. Alors évidemment, c'est qu'une machine. Par contre, les sons sont réels. Ils ont été réellement enregistrés en laboratoire. Le sujet doit simplement souffler et inspirer dans une paille. Et ensuite, il entendra quelle est l'activité d'un neurone qui est un neurone respiratoire enregistré au niveau du tronc cérébral.
Souffler, inspirer. Souffler, inspirer.
Vous entendez le bruit ?
Souffler, inspirer.
Alors le CCSTI a plusieurs rôles. Il a un rôle de créateur, c'est-à-dire que l'exposition Balade en cerveau a été créée par le CCSTI. Donc nous avons créé tout le contenu scientifique, toute la programmation scientifique de l'exposition. Et bien entendu, nous avons fait faire la construction par des spécialistes de décor et de construction d'exposition. Mais toute la partie scientifique est maîtrisée et conçue par nous. Alors ça, c'est un premier type d'activité, mais d'autre part, le CCSTI reçoit des expositions construites et faites par d'autres. Et l'exposition Atmosphère et climat sur la météorologie, c'est une exposition qui avait été faite par Orléans, un autre CCSTI. Et c'est vrai qu'il existe en France tout un réseau d'une vingtaine de CCSTI qui s'échangent leurs produits, qui se louent réciproquement leurs produits.
Écoutez maintenant quelle est l'activité de ce même neurone pendant une fonction tout à fait différente. Il s'agit de déglutir. Alors tu vas respirer, déglutir selon ce que te dit le gars, tu vois, c'est pas de la tarte.
Souffler, inspirer.
Activité normale.
Attention, souffler, avaler, inspirer.
Hop, pas mal. Là, tu respires.
Avaler. Inspirez. Attention, soufflez. Avalez. Inspirez.
Vous avez une petite décharge ?
Soufflez. Inspirez.
But de ces expositions, c'est pas que les gens sortent en étant spécialistes aujourd'hui de neurosciences, pas du tout. Simplement qu'ils aient un petit qu'ils aient fait une incursion dans les neurosciences et qu'ils aient envie d'en savoir plus, qu'ils soient curieux et qu'ils aient envie de continuer à regarder ou à apprendre ou à lire ou à entendre des choses sur les sciences. Donc c'est plus une mise en appétit. Nous ne voulons pas remplacer l'école. Hein? Nous sommes une autre façon d'avoir des connaissances, la plus agréable possible.
La saison du CCSTI reprend dès mardi prochain, le 15, avec une information débat à l'espace Écureuil. Thème du rendez-vous, faire le point à l'heure du mondial de l'automobile sur la ville et la voiture avec Alain Le Douaron. Les renseignements se prennent au 91 53 37 37. Au village de la science, il y a des ordinateurs, des maquettes, des expos, du papier, des objets, des expériences et des hommes, les chercheurs. Ils acceptent depuis 5 ans, 3 jours par an, de venir transmettre leur expérience, découverte et envie au public. Alors maintenant, parole de chercheur.
Au départ, c'était l'enseignement qui m'a attiré. Bon. J'aime la pédagogie et je crois qu'aussi au départ, il faut beaucoup de curiosité pour tout ce qui nous entoure. Et donc je crois qu'un chercheur ne peut pas être chercheur s'il n'est pas curieux à la base. Et donc cette curiosité, ça se voit dans la vie de tous les jours après. Moi je suis rentré à l'université dans les années 62. Et puis donc avec de l'enseignement assuré, et puis également de la recherche dans un laboratoire. Et donc qui a conduit donc à aujourd'hui à avoir encadré des élèves, avoir dirigé des thèses. J'ai été curieux des choses assez pratiques, des phénomènes physiques, des phénomènes appliqués. Donc je suis très très bricoleur de nature. On me dit pointilleux au niveau de la minutie, etc. Bon, ce sont dans certains domaines ça peut être un peu des inconvénients, et puis dans d'autres domaines ce sont des facteurs presque indispensables pour arriver à maîtriser un certain nombre de choses, à percevoir un certain nombre de phénomènes, à anticiper un certain nombre de pratiques, etc. Donc c'est pour ça que le mot curiosité, je pense qu'il s'applique à tous les chercheurs. Mais pour ma part, j'étais peut-être plus orienté vers les choses pratiques, les choses liées au bricolage, et donc à la physique, hein, à la physique, aux phénomènes physiques. Donc partie mathématique également, etc. Voilà, donc je suis un scientifique.
Et l'image du chercheur, du scientifique, un peu dans sa bulle comme ça, c'est quoi comme image ça ? Ça correspond à une certaine réalité ?
Beaucoup moins qu'avant. Bon, vous voulez sans doute faire allusion à ce qu'on appelait avant le professeur Servan-Cosinus, ou professeur Nimbus, etc. Alors avant, c'est vrai que les gens travaillaient de façon beaucoup plus isolée. Et donc il y a eu quand même des chercheurs très éminents dans ce domaine-là qui travaillaient beaucoup plus seuls que maintenant. Maintenant, on ne peut plus rien trouver d'important si on ne travaille pas en équipe. Et donc les chercheurs sont des chercheurs qui sont des chercheurs de plus en plus jeunes. Avant, on arrivait vraiment à découvrir ou à faire un certain nombre de choses, parfois à un âge avancé. Maintenant, le travail en équipe, la performance des ordinateurs, etc., fait que les chercheurs sont de plus en plus jeunes. Et comme ils travaillent en groupe, il y a moins la notion d'individualité. Bon, même si quand même, il y a quand même des chercheurs qui sont plus doués que d'autres. On peut parler également de dons. Hein. Donc, les récents prix Nobel qu'on a vus sont des chercheurs qui sont d'ailleurs relativement jeunes. Mais ce sont tout quand même des personnes qui travaillent en groupe. On ne travaille plus de façon isolée, d'ailleurs c'est impossible maintenant. Les moyens d'investigation sont tels que personne ne peut travailler tout seul dans son coin.
Donc. Alors est-ce qu'Internet a favorisé aussi cette possibilité de travail de groupe ? On dit qu'Internet a été créé par les militaires, mais développé en fait par les scientifiques. Est-ce que vous-même, vous utilisez cet outil-là ? Et de quelle manière il intervient réellement justement par rapport à cette recherche de groupe ?
Bon, Internet, bon, c'est quand même relativement récent. Bon, c'est relativement récent. Nous, au laboratoire, on s'est branché il n'y a pas tellement longtemps. Pour nous, c'est intéressant par les possibilités rapides et très importantes de pouvoir avoir accès à des banques de données, notamment. Pour la recherche bibliographique, tout ce qui est banque de données, etc. Pour l'instant, c'est surtout cet aspect-là. La communication éventuellement avec d'autres chercheurs, faire part de certains travaux, etc. Bon, c'est plutôt cet aspect-là pour l'instant. Les autres applications éventuelles se développeront peut-être avec la perception qu'on aura d'Internet et puis les possibilités nouvelles qu'Internet offrira peut-être.
Alors jusqu'à demain, la science est en fête, certes, mais cette fête ne doit pas masquer les difficultés que rencontrent les chercheurs. Difficultés en termes de moyens financiers, mais aussi d'orientation générale. On apprenait le 3 octobre dernier que le budget de la recherche civile baisserait pour cette année de 3% en tenant compte de l'inflation. Cette baisse de crédit conduit le gouvernement à privilégier certaines voies, en particulier celle de la recherche dite finalisée. C'est-à-dire que les scientifiques devront se consacrer de plus en plus aux applications concrètes de leur travail. A priori, il semble positif d'impliquer les chercheurs dans une amélioration de la vie quotidienne. Mais il y a une certaine démagogie derrière tout ça. Il ne faut pas oublier que les grandes découvertes scientifiques ont souvent été le fruit du hasard. En envoyant ses cerfs-volants dans les nuages orageux, Benjamin Franklin ne pensait certainement pas aux applications pratiques de l'électricité. Alors, recherche fondamentale ou recherche appliquée? Le point de vue d'un chercheur vert de l'Institut méditerranéen d'écologie, Michel Tinon.
C'est un débat qui est relativement ancien. Je me souviens, en 1981, après l'arrivée de la gauche, il y avait eu un grand débat, les assises de la recherche, où il était question justement de remettre un petit peu à l'ordre du jour la nécessité de faire de la recherche dite fondamentale et non pas finalisée. Et périodiquement, ce débat ressort. Effectivement, la recherche dite appliquée, en réalité, ce n'est que des applications de la recherche. Et la recherche fondamentale, c'est quand même ce qui est le plus important. Néanmoins, sous une pression économique de plus en plus forte, on a tendance à vouloir rentabiliser, entre guillemets, le potentiel chercheur et à donc n'investir que dans des domaines qui semblent porteurs, selon la terminologie actuelle. C'est quelque chose qui peut être pernicieux, car il y a actuellement, et ça ne date pas de 2-3 ans, mais depuis une bonne quinzaine d'années, et même 20 ans, des pans entiers de la recherche qui sont considérés comme sans intérêt, obsolètes. Et il y a des disciplines qui sont sinistrées, où il n'y a plus de chercheurs, ou alors ce sont des gens qui vont partir à la retraite dans quelques années et qui n'auront pas de successeurs. Et ce sont des domaines qui sont néanmoins extrêmement importants, puisqu'on parlait de l'environnement. Il y a tout un arsenal juridique qui est en train de se mettre en place pour la protection des espèces animales et végétales. Mais bientôt, plus personne ne saura reconnaître ces mêmes espèces. Et dans notre pays, l'inventaire lui-même sur certains groupes animaux n'est pas encore fait. Il y a un tas d'espèces à découvrir qui sont nouvelles pour la science. Et là, personne n'est capable maintenant. Enfin, tout au moins, ne sera capable de le faire.
Et alors justement, vous parliez des espèces qu'on ne connaîtra plus, qu'on ne saura plus reconnaître d'ici quelques années. Est-ce que c'est pas en ce moment où on assiste à une expansion à tout craint du progrès avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la nature, qu'il faudrait justement mettre le paquet sur cette connaissance de la biodiversité?
Eh bien, qu'il y ait déjà une prise de conscience et que le mot biodiversité, qui est un mot de création récente, soit connu de tout le monde, c'est pas une mauvaise chose. Simplement, il ne faut pas que l'on tombe dans les phénomènes de mode comme on a trop souvent connu. C'est le mot qu'il faut prononcer pour être à la page, puis dans 4 ou 5 ans, ce sera ringard, il faudra parler d'autre chose. Il ne faut pas tomber dans ce biais-là. Il faut qu'il y ait une véritable prise de conscience vraiment permanente, que le patrimoine de l'humanité, c'est aussi tous les êtres vivants qui sont autour de nous, qui nous ont accompagnés et précédés dans l'évolution de la vie. Et l'homme n'a pas le droit de faire disparaître des espèces comme ça, sous prétexte qu'elles sont sans intérêt pour lui, qu'il ne veut pas en tirer un profit immédiat. En réalité, l'homme fait partie du cosmos. Il est là même à titre transitoire, c'est pratiquement sûr, il disparaîtra un jour. Et c'est dommage d'éliminer des êtres vivants comme ça, d'autant plus qu'on ne sait pas dans le futur si ces êtres vivants-là qui présentent aucun intérêt n'en auront pas un. On a beaucoup d'exemples à ce sujet. Tous les jours, les pharmacologistes trouvent des substances nouvelles chez des végétaux, de la sylve équatoriale, dans des milieux qui sont fortement menacés de nos jours et qui risquent de disparaître sans qu'on ait pu en faire l'inventaire.
Voilà, c'était Michel Tinon de l'Institut méditerranéen d'écologie et de paléoécologie. La transition est toute trouvée, on vient d'évoquer la destruction de la forêt amazonienne, alors direction le Brésil avec Moleque Derua.